Priorité santé. Sandrine Mercier.
Bonjour à tous, bienvenue, c'est Priorité Santé. Savez-vous que chaque seconde, 9 avortements sont pratiqués dans le monde, soit 44 millions d'IVG chaque année. Mais le chiffre le plus parlant que je voudrais vous donner, c'est qu'un avortement sur deux est toujours illégal. Et qui dit illégal, dit conditions dangereuses avec des complications qui peuvent entraîner la mort. En France, c'est vrai, on fête les 40 ans de la loi Veil qui a dépénalisé l'interruption volontaire de grossesse. Mais on peut se demander s'il est menacé en France ou en Europe. Et à l'échelle de la planète, où en est-on aujourd'hui de l'accès à l'avortement ? De Santiago du Chili à Bamako, en passant par Haïti, dans quelles conditions les femmes ont-elles recours à l'IVG lorsqu'il est interdit ? Quels sont les enjeux sanitaires ? On parle de ce dossier sensible aujourd'hui avec Christine Mauget. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des questions internationales au Bureau national du planning familial, une grande militante hein, depuis 20 ans, et vous rentrez tout juste du Burkina Faso, c'était hier. Alors qu'est-ce que vous avez fait là-bas ?
Hier, effectivement, on est rentré hier avec un bon décalage thermique aussi. Et effectivement, on est allé clore un programme que nous menons depuis plus de 10 ans maintenant sur le Burkina Faso. Et on a clos la triennale d'un programme qui s'appelle Santé, Sexualité, Droits et Genre. Et effectivement, où la question de l'avortement est posée, puisqu'effectivement, on est confronté à ça dans les groupes de parole que l'on organise avec les femmes dans les quartiers sur tous les territoires burkinabés.
Donc les femmes continuent de prendre la parole aussi. D'ailleurs, vous avez ramener un très beau collier aussi, hein, en boule de tissu, il faut en faire la pub. On fera donc un tour du monde, hein, des pratiques. Dans la deuxième partie de l'émission, nous irons à Haïti, pays où l'avortement est illégal, hein, et avec des chiffres dramatiques, hein, puisque l'avortement, c'est la troisième cause de mortalité maternelle. Alors, comment est-ce possible ? Nous aurons Olga Benoît, qui est militante pour la légalisation de l'avortement. Elle est chargée de programme à SOFA, c'est Solidarité Femmes Haïtiennes sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et en fin d'émission, c'est jeudi, hein, jeudi, eh bien c'est Catherine Solano aujourd'hui. Quelle contraception pour une meilleure sexualité ? Alors on attend vos questions sur l'avortement, les différentes pratiques dans le monde. Que les femmes prennent la parole donc sur ce sujet au 33 1 84 22 75 75 et sur nos réseaux sociaux. Alors beaucoup de messages, hein, sur Facebook, beaucoup de messages sur les prises de position, hein, surtout pour ou contre l'avortement. Alors c'est vrai qu'on va pas faire un débat d'opinion aujourd'hui. On est Priorité Santé, c'est une émission de santé, donc on va vraiment regarder de près la réalité des IVG dans le monde et les conséquences, hein, sur la santé. Mais il y a Cédou par exemple qui nous dit pourquoi la femme a le monopole du droit à l'avortement alors que l'enfant est conçu avec un homme. Bon. On va lui répondre. Il y a Kadia Alorel qui a une remarque intéressante. Elle dit pourquoi ce sont majoritairement les hommes qui sont contre l'avortement. Émile du Bénin lui repose une question assez fondamentale, c'est quelles sont les raisons vraiment profondes qui conduisent les femmes à un avortement. Et Alvin s'interroge pour sa sœur qui a eu déjà deux avortements et là qui n'arrive pas à avoir d'enfant, donc elle se demande s'il peut y avoir un lien entre les avortements et la stérilité. Donc on va répondre, on va vous prendre beaucoup à l'antenne au 33 1 84 22 75 75 et continuer d'échanger sur Facebook.
Déjà fait, toi ?
T'as peur ?
Tu l'as jamais fait.
Bah, ça ne peut pas être plus compliqué qu'autre chose.
Je me mets comment ?
Bah, la table est trop petite.
Alors je m'allonge par terre.
Je vois que ça. Retrousse ta jupe.
Quand je pense qu'il y en a qui aiment faire l'amour par terre.
Tiens.
Je préfère que ce soit toi, j'ai peur de pas savoir.
Ça fait mal ?
Je sais pas.
Dis-moi, Ginette, le bout du savon qui reste, je pourrais le garder ?
C'est un extrait du film Affaires de femmes de Claude Chabrol. C'est une faiseuse d'anges, hein, comme on disait à l'époque, qui pratiquait donc ces avortements clandestins. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait donc, oula, 70 ans maintenant, Christine Mauget, au planning familial. Bon, on le voit, c'est une pratique illégale. Là, ça se passe dans une cuisine. avec les moyens du bord.
Ah ben oui, c'est vrai que cette période-là, c'était extrêmement... L'avortement avait été pénalisé déjà en 1920, à la fin de la Première Guerre mondiale. Il fallait repeupler la France, hein, donc dans une chambre assez bleu horizon. À la fois la pratique, l'information autour de la contraception et la pratique de l'avortement avait été condamnée en 1920 et 1923, et renforcée pendant la période de Vichy. Hein. Et donc, effectivement, d'où la condamnation, effectivement, de cette dame, de cette faiseuse d'ange, comme on les appelait, à cette période, qui a été condamnée à mort et qui a été guillotinée. Donc, effectivement, il a fallu, après un long combat des femmes, à l'issue de cette période-là, le planning familial est né aussi de ça, parce que la question de l'avortement, bien sûr, mais aussi la question de la pratique contraceptive, qui était toujours interdite. Donc, en 1956, on s'est appelé même la maternité heureuse. Vous voyez, c'était tout un programme. Et il a fallu attendre après 1967 pour la contraception avec la loi Neuwirth et 1975, dont on fête effectivement les 40 ans pour la loi Veil, pour que l'avortement puisse être effectivement dépénalisé en France et proposé à la demande des femmes avec un certain nombre de conditions. Juste un petit point, c'est une des lois qui a été mise à l'essai pendant 5 ans et qui n'a été confirmée que 5 ans plus tard. Vous voyez.
Et elle a encore évolué, parce que même 40 ans après, maintenant, on a enlevé l'idée de la situation de détresse qui a été enlevée du texte. Donc c'est une loi aussi qui évolue.
Oui, la question de la situation de détresse a été introduite pour, finalement, c'était aussi dans le cadre de... C'était une très tendue. Simone Veil témoigne des insultes qu'elle a reçues pendant ces débats, hein, aussi bien de sa classe politique, de beaucoup de sa classe politique d'ailleurs, ce qui avait été quand même... dont elle témoigne, et puis ça a été quand même très violent. Et cette clause avait été introduite et elle vient d'être supprimée récemment, et c'est pour notre plus grand plaisir.
Alors, qu'est-ce qui vous semble vraiment fondamental, Madame Mauger, pour comprendre l'avortement dans le monde aujourd'hui?
Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important aussi, c'est de... Moi, je pense... c'était un grand quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la question de l'avortement en Afrique, qui s'appelle Marcel Wekmans, qui était de l'IPPF. L'IPPF a beaucoup travaillé aussi sur la question du protocole de Maputo, que beaucoup d'Africains connaissent. Aujourd'hui, il y a quand même 34 pays qui l'ont signé, qui s'engageaient sur des choses assez intéressantes par rapport à l'avortement, mais pas que, sur la question des violences et tout ça. C'était un outil additif à la question pour les droits des femmes, hein. Et il disait, l'avortement n'est pas un problème, c'est la solution aussi à un problème. Le problème, quand même, mais faut vraiment le poser, c'est la question des grossesses non prévues et non désirées. Aujourd'hui, et derrière, tous les moyens qui vont être construits en matière d'information, en matière de pratiques contraceptives et tout ça, qui vont permettre aux femmes, aux couples, il y avait les témoignages, aux couples de pouvoir planifier comme ils veulent leur naissance et de contrôler leur fécondité. Si vous n'avez pas ce cadre-là, effectivement, l'avortement va être utilisé, puisqu'on est face à des grossesses qui ne sont pas forcément prévues et non désirées. Donc, les personnes à ce moment-là vont essayer de trouver des solutions. Ce qu'on peut constater, que depuis 1995, le taux d'avortement est passé de 35 avortements pour 1000 femmes à l'échelon global. Hein. Alors, ça veut dire qu'il y a des pays comme la Chine, l'Inde et tout ça, où vous avez des fortes populations qui peuvent... Et actuellement, en 2008, c'est les chiffres que l'on a, à 28 pour 1000. Ils sont passés à...
Donc ça a baissé.
Ça a baissé. Mmh. Ça a baissé. Ils sont baissés pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a eu aussi, suite à la conférence du Caire, qui était une conférence sur la population et le développement, il y avait eu des engagements qui avaient été pris sur la question de l'accès à la contraception et de la planification familiale. Il y a eu un boom, et aujourd'hui, on constate quand même, malgré les OMD, malgré les objectifs du millénaire et les engagements, qu'il y a eu une stagnation dans les dernières années. Donc, on voit bien qu'il y a une corrélation, en tous les cas, dans les pays du Sud, entre l'accès à la contraception et la question de l'avortement.
Alors, on va tout de suite prendre une auditrice, c'est Mariama, qui nous appelle de Dakar. Bonjour Mariama.
Bonjour Priorité Santé. Ça va?
Ben ça va très bien. Merci de poser votre question au 33 1 84 22 75 75. On vous écoute.
Mm-hmm. Ma question est là. Moi, je constate que parmi les droits des avortements, il y a les maladies cardiovasculaires. Les cardiopathes de ce droit est 4. Et la prise en charge doit être multidisciplinaire chez la sage-femme et les gynécologues. Je dois savoir, la prévention doit accentuer sur quoi? La sensibilisation, l'éducation ou dans quels moyens? C'est ma question.
Très bien, oui. Merci beaucoup pour votre question.
Alors, moi j'ai envie de faire un point sur le Sénégal, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la loi est extrêmement restrictive en Sénégal. Il y a plusieurs des personnes de la société civile, même un imam, hein, qui est assez connu au Sénégal, qui se sont levées un peu pour dire l'importance d'aller vers la dépénalisation de l'avortement, ou du moins la possibilité pour les femmes d'avoir accès. Pourquoi ? Parce que derrière, ça va construire... Quand l'avortement est illégal, on bascule dans des avortements clandestins. Des femmes, effectivement, qui sont en non-désir de grossesse, de poursuivre une grossesse, pour x, y raison. Hein, parce que elles peuvent avoir subi des violences aussi, parce qu'elles doivent pouvoir avoir un espace sécurisé, c'est-à-dire accompagné, médicalisé, tout ça, dans des bonnes conditions, hein, pour pouvoir mener à terme cet avortement.
Mais ce que vous dites aussi, c'est qu'une femme qui veut avorter... rien ne la détournera de ce chemin.
Tout à fait. Mmh. Rien ne détournera une femme qui a décidé de ne pas mener à terme une grossesse. Mmh. Et donc, d'où l'importance de pouvoir lui offrir un cadre. Et justement, comme dit très bien la dame, à partir de là, si vous offrez un cadre sécurisé dans le cadre d'un centre de santé, vous allez avoir le collège des médecins ou sages-femmes ou infirmières qui vont être là pour vous permettre de faire que cet avortement se passe dans les meilleures conditions, en prenant en compte effectivement les pathologies des personnes qui vont venir. Après, on reste quand même, quand la méthode Carman a été introduite en France et tout ça, quand on reste dans la méthode d'aspiration, on reste sur des choses, si vous avez un minimum et un maximum d'hygiène, c'est des choses qui peuvent être assez facilement faites et qui ne sont pas une intervention par les voies naturelles. On reste quand même dans une faible probabilité derrière d'avoir des conséquences. Mmh. D'où l'importance d'aller dans les centres de santé.
Oui, voilà. Ça se pratique dans les pays où c'est légalisé. Quand c'est pas légalisé, on peut pas aller dans un centre de santé pour le faire. Donc du coup, on voit les chiffres. Hein. Un avortement sur deux est illégal dans le monde, donc beaucoup en Afrique, avec un risque, avec des problèmes de santé assez importants. Là, Mariama, elle posait aussi la question, est-ce qu'il y a des risques de tétanos pour les femmes qui avortent illégalement ? Donc effectivement, quels sont les risques d'avorter illégalement ?
Eh bien, c'est même justement, puisqu'on est au Sénégal, hein, Alouf Salik qui dit ça. Qui dit nous devons le combattre, sinon d'ici 100 ans nous n'aurons plus de population. C'est-à-dire que derrière c'est la mort que ça construit. C'est-à-dire que les femmes qui veulent avorter vont le faire dans des conditions d'hygiène où effectivement elles vont s'introduire. Moi au Burkina on m'a témoigné de choses atroces où les femmes pilaient du verre et s'introduisaient du verre dans le vagin pour pouvoir supprimer cette grossesse, ou s'introduisent des morceaux de fer, des choses, et vont à ce moment là, on va avoir des problématiques de perforation, on va avoir des problématiques de septicémie, et derrière, c'est pratiqué dans des lieux reculés où les centres de santé sont très loin, vont mourir effectivement, quoi. Donc aujourd'hui, quand même encore, on sait qu'une femme meurt toutes les 8 minutes d'un avortement clandestin dans le monde, et ce taux de mortalité est extrêmement fort en Afrique.
Et c'est un taux de mortalité qui est souvent aussi sous-estimé, parce qu'on ne dit pas forcément aux enfants, on ne le dit pas à la famille que c'est d'un avortement, qu'elle est morte, on le camoufle.
Tout à fait. Et puis, vous avez effectivement ce fait-là qui n'est pas... bon, il va y avoir un paquet qui vont partir, qu'on va retrouver dans la santé maternelle. On estime à 13% hein, de taux total de mortalité de la mortalité maternelle. Mais après, vous avez des politiques qui sont restrictives par rapport à la pratique et qui condamnent la femme en cas d'avortement. Est-ce que vous pensez qu'une famille, la femme va être morte, mais est-ce qu'une famille va dire que la fille, la mère avait pratiqué un avortement s'ils savent que derrière il va y avoir une condamnation? Non, effectivement, comme vous le soulignez à juste titre, ça va passer sous un autre intitulé. Et aujourd'hui, on sait bien que ce chiffre que je vous annonçais, en fait, de 45 000 femmes qui meurent par an, est largement sous-estimé finalement par rapport à cette question d'avortement.
Oui, on peut dire qu'elle est morte de péritonite, qu'elle est morte d'hémorragie, enfin de choses effectivement qu'on invente pour camoufler tout ça. Alors on va tout de suite prendre Elisabeth André qui nous appelle d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour Sandrine.
Merci de témoigner, on vous écoute.
Ok, merci à vous. Alors, par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on peut signifier qu'il y a vraiment beaucoup d'avortements qui sont effectifs, pas forcément clandestinement, parce qu'on peut aller même en clinique le faire, dans les hôpitaux généraux. Bon, je ne sais pas si la loi a été adoptée ou pas, mais tout le monde sait que cela se passe. Voilà. Mais écoute, on sait aussi que les femmes prennent le malin plaisir à se faire avorter chaque fois qu'elles sont enceintes et qu'elles trouvent que sont les grossesses indésirées. Je ne sais pas ce qu'on peut faire dans ce cas de figure-là.
Et pourquoi pourquoi vous parlez de malin plaisir?
Mais oui, parce que généralement, les jeunes filles en général, chaque fois qu'elles sont enceintes, on sait qu'il y a des moyens d'éviter de prendre des grossesses, par exemple. Mais elles peuvent prendre la grossesse cette année, par exemple, tout au long d'une année, faire un avortement, faire des avortements, 2-3 avortements.
Alors, Christine Mogé, est-ce que vous pouvez effectivement réagir au témoignage d'Elisabeth qui se demande, voilà, les jolies filles qui trouvent un malin plaisir à se faire avorter. La formule est un peu provocante aussi.
Oui, c'est un peu provocant parce que derrière, comme je le soulignais précédemment, je pense que c'est pas un malin plaisir, c'est face à une situation qu'on ne peut pas, parce que derrière, ça va construire une maternité qu'on n'a pas forcément, qu'on n'est pas en capacité de pouvoir assumer. C'est aussi cette question-là. Et donc, je pense qu'il faut, ça me paraît un peu forcé de dire ça. Les femmes ne prennent pas un malin plaisir à éventuellement se mettre en danger et risquer de mourir. Hein. Après, effectivement, il y a la possibilité. Je vois en Côte d'Ivoire, effectivement, comme la dame le souligne, de pouvoir avorter dans les conditions, c'est plutôt bien. Justement, ça évite ce genre de choses, mais ça construit pas forcément le malin plaisir pour les femmes. Par rapport à la question des jeunes, parce qu'elle soulignait ce problème-là. On sait qu'en Côte d'Ivoire, la taux de prévalence contraceptive est très faible, il reste encore très faible. On est en dessous de 10% pour des moyens modernes, ce qui est quand même largement insuffisant. Et on sait qu'effectivement, l'avortement est effectivement, puisque quand on est jeune, on a plus de relations sexuelles et tout, c'est plutôt dans ces populations. Le frein à l'accès à la contraception et si le tabou qui existe autour de la pratique contraceptive et la diffusion de la contraception en direction des jeunes filles est un vrai problème, et c'est là est le vrai problème, c'est-à-dire de permettre à ces jeunes filles de pouvoir se contracepter ou de pouvoir négocier dans de bonnes conditions un préservatif féminin ou masculin dans le cadre de rapports sexuels. Les problématiques de rapports d'inégalité, les problématiques de tabou autour de la sexualité des jeunes, les problématiques de manque d'accès et de pratiques contraceptives vont construire effectivement le fait que des jeunes filles qui vont avoir des relations sexuelles risquent d'avoir une grossesse non prévue.
Il faut bien voir à quel point c'est corrélé entre l'accès à la contraception et l'avortement. C'est parce que ces jeunes filles n'ont pas d'accès à la contraception qu'elles se retrouvent enceintes.
Oui, la plupart, c'est effectivement l'accès à la contraception, et c'est aussi, là c'était un témoignage au Burkina Faso, c'est aussi l'accès à l'information et la connaissance du corps. J'étais un peu étonnée, effectivement, mais c'est une animatrice qui témoignait de ça, de la méconnaissance. Elle avait travaillé avec un public d'étudiantes à l'université de Ouagadougou, et elle témoignait à quel point les jeunes filles avaient peu de connaissances sur leur corps, comment il fonctionnait, et d'où le fait qu'elles pouvaient être prises en otage, en fait, par rapport à ces questions-là, et ne pas avoir la possibilité d'avoir de développer un choix éclairé par rapport à ça, parce qu'elles ne savaient pas déjà comment elles fonctionnaient.
Alors Christine Mogé, vous restez avec nous, vous êtes militante depuis 20 ans au planning familial, aujourd'hui responsable des questions internationales. Vous restez avec nous, toujours un avortement sur deux illégal dans le monde. Quelles sont les femmes les plus touchées? Les risques sanitaires aussi, on voit, c'est un vrai problème de santé en Afrique. Alors on retrouve dans la deuxième partie aussi, on ira à Haïti, où l'avortement est la troisième cause de mortalité maternelle. Comment sortir de cette spirale? Nous aurons Olga Benoît, militante. On attend toujours vos témoignages au 33 1 84 22 75 75 et sur Facebook. On se retrouve après le flash dans 3 petites minutes.
Priorité santé. Sandrine Mercier.
Bien. bienvenue à vous qui nous rejoignez, ces priorités santé. Souvenez-vous, il y a 40 ans, le 17 janvier 1975, la loi Veil autorisait l'interruption volontaire de grossesse en France. Une loi qui a vraiment changé la vie des femmes pour qu'on n'entende plus jamais ça.
Qui t'a filé ça encore?
Tu sais pas que c'est du poison? Qu'un jour tu vas en crever?
On en a trop, Robert. Un de plus, je pourrais pas.
D'accord. D'accord, mais pas comme ça. Il y a un autre moyen, Jasmine.
C'était en France, donc avant 75, les femmes avortaient dans la clandestinité. Et aujourd'hui, en 2015, c'est encore la moitié des avortements pratiqués dans le monde qui sont illégaux, avec de gros risques pour la santé des femmes. Alors, où en est-on au niveau du droit des femmes à disposer vraiment de leur corps, l'accès à la contraception? Quelles sont les conséquences des avortements clandestins sur les femmes? Nous sommes avec Christine Mauget, militante depuis 20 ans au planning familial, responsable des questions internationales au bureau national. Et donc, avant de partir à Haïti, normalement, j'espère que la ligne va être rétablie. J'aimerais vous lire un extrait du tout dernier livre de Colombe Schneck, 17 ans. C'est paru chez Stock. « On m'a élevée ainsi. Les garçons et les filles sont à égalité. Je suis aussi libre que mon frère. Ma mère est aussi libre que mon père. C'est faux. Je suis une fille, pas un garçon. J'ai 17 ans. Mon corps me trahit. Je vais avorter. J'y pense toujours, je n'en parlerai jamais à personne. Parfois, je ne suis pas loin de dire le mot, de le partager avec une amie proche, et puis non, je renonce. » Pourquoi ce silence, toujours aujourd'hui, Christine Mauget, du planning familial autour de l'avortement?
Parce que derrière, c'est une question très tabou, hein, qui et heureusement qu'il y a des espaces. D'ailleurs, il y a un site qui avait été créé, c'était les filles des 343, en référence au manifeste des 343, qui ouvrait la parole aux femmes, hein, pour dire effectivement combien pour parler de leur avortement. Qu'il soit à la fois qu'il a eu des conséquences parfois ou un peu douloureuses ou pas, parce que c'est souvent la question de la douleur derrière ou du traumatisme qu'on aime mal causer est souvent liée beaucoup à l'histoire, en fait, autour de l'avortement.
Oui, parce qu'il y a Nafis Atou, là, qui nous envoie un message de Côte d'Ivoire. Elle dit « Je ne suis pas encore enceinte, mais si, est-ce que l'avortement pourrait laisser des séquelles au niveau moral sur une personne ?»
Ben, il laisse pas de séquelles dans la mesure où il se passe dans les meilleures conditions et que la personne qui veut avorter, la femme en l'occurrence, le fait dans les meilleures conditions et parce qu'elle le désire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que derrière, c'est tous les freins, l'environnement qui va être aujourd'hui, nous encore, dans nos permanences, on accueille des femmes qui arrivent et qui se sentent obligées de nous parler de choses qu'elles ressentent pas vraiment parce que elles ont l'impression que c'est le vrai discours qu'elles doivent avoir autour de ces questions-là puisque cette question-là reste très taboue. Et tout ça est très moral. Alors qu'en fait, elles sont contentes de pouvoir se débarrasser de quelque chose dont qu'elles ne veulent pas. Donc c'est important de pouvoir construire des espaces où les paroles peuvent être, les paroles des femmes doivent être recueillies ou partagées même entre femmes, parce que les accueils collectifs ont permis aussi entre les femmes de voir à quel point effectivement les femmes vivaient des choses singulières, quoi.
Hein, donc il faut quand même donner des chiffres, hein, en France. En tout cas, au moins une femme sur trois y a recours dans sa vie. Donc, un silence qui doit être brisé. Et c'est le but de l'émission aussi aujourd'hui dans Priorité Santé, hein, rompre la loi du silence. Et nous partons tout de suite en Haïti, pays où l'avortement est toujours illégal, pays avec des conséquences graves, hein, terribles sur la santé, puisque c'est la troisième cause de mortalité maternelle. Alors, comment on en est arrivé là? Comment rompre aussi, casser cette spirale? Nous sommes avec Olga Benoît en direct depuis Haïti. Bonjour Olga.
Oui, bonjour et à vous toutes et à vous tous.
Alors, et justement, merci en tout cas d'être avec nous en direct, hein, très très tôt en Haïti. Vous êtes une vraie militante, hein, pour la légalisation de l'avortement, donc toujours prête pour parler de votre cause. Et vous êtes chargée de programme à SOFA, c'est Solidarité Femmes Haïtiennes sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors en Haïti, vous le vivez comment? Vous, le pays est très dur, hein, toujours avec une loi comme ça très très pesante. Est-ce que c'est une des causes de ce taux de mortalité importante chez les femmes qui subissent des avortements?
Non, je ne veux pas dire que cette situation politique est une cause directe, mais vous savez qu'en Haïti, nous sommes pays appauvris et tant qu'il n'y a pas de politique réelle de santé des femmes, ça a un poids très lourd. Mais en ce qui concerne l'avortement, Le fait que l'avortement soit strictement pénalisé en Haïti, ça pose un sérieux problème. Et comme vous venez de le souligner, la troisième cause de mortalité maternelle en Haïti. Mais c'est au fait, c'est le fait que l'avortement se pratique dans des conditions de clandestinité et qui mettent la vie des femmes en danger. Et en plus, c'est les femmes qui vivent dans des situations précaires sont les plus exposées au danger des pratiques clandestines de l'avortement.
Et alors, comment elles se débrouillent, les femmes? Comment elles se débrouillent en Haïti?
Donc, vous savez, un pays avec plus de 70% du taux de chômage, c'est très difficile pour les femmes, mais également le fait aussi qu'il n'y ait pas de politique de prise en charge réelle de santé, il n'y a pas d'aide est vraiment dédiée aux familles, et aussi il n'y a pas une politique d'emploi en Haïti, donc les femmes se retrouvent généralement dans les secteurs informels et elles portent le poids de leur famille, d'autant qu'on fait face à un sérieux problème d'irresponsabilité paternelle. Et justement, depuis plusieurs années, les organisations de femmes, nous luttons pour qu'il y ait vraiment une loi sur la paternité et la filiation qui finalement a été promulguée à la fin de cette année, mais sans une loi d'application, sans une politique définie et par les décideurs, cette loi ne va pas soulager les femmes.
Parce que, et j'aimerais qu'on parle avec vous, Olga, aussi des complications post-avortement quand ça se pratique d'une manière illégale. Qu'est-ce que vous constatez?
Premièrement, il y a la peur. Généralement, et les femmes qui sont dans une situation de décider d'avortement, et elles ont la peur que ça soit connu par leur entourage. Elles ont la peur que ça va réussir. Et souvent, comme elles n'ont pas de moyens et comme l'avortement est illégal, elles n'ont pas accès à des services de santé pour la prise en charge des avortements, elles se réfèrent soit à des charlatans qui leur qui agissent de manière tout à fait inconvenante par rapport à leurs besoins d'avortement, ou aussi où il y a des pratiques où elles ont des problèmes post-avortement, des complications très sérieuses, soit des saignements. Il y a aussi le fait que souvent, elles peuvent avoir accès à des médicaments, soit des médicaments de breuvage, soit des médicaments pharmaceutiques qui se vendent, mais qu'elles prennent sans aucune référence par rapport au dosage. Et le pire, c'est que tant que la femme qui essaie d'avorter, si elle pratique une méthode et que ça ne marche pas, elle va le renforcer et avec d'autres méthodes. Et souvent, il y a des sérieuses complications. Il y a des cas même où l'on dû intervenir pour après un avortement compliqué, soit pour faire une hystérectomie où la femme a de fortes fièvres et beaucoup de complications.
Oui, et vous Olga, vous me disiez aussi quand on a préparé cette émission qu'il y avait aussi beaucoup d'avortements incomplets et que vous vous battiez justement pour développer dans les maternités l'accueil de ces femmes pour les traiter.
Alors ça, c'est une démarche qu'on est en train de mettre en place. Donc, ce n'est pas directement la SOFA qui met cette démarche en place, mais on a un partenariat avec le Médecin du Monde France en Haïti qui va et appuyer au moins sept maternités dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince pour qu'il y ait une meilleure prise en charge des avortements provoqués et complets, parce que cela répond à un besoin. Et un besoin parce que les femmes qui ont recours, qui vont pratiquer l'avortement dans des conditions insalubres, donc quand elles ont des complications, et il y a des témoignages souvent, elles sont prises en charge, mais avec beaucoup de discrimination et de stigmatisation.
Oui.
Et ce besoin-là, si je peux, et je crois qu'il y a deux hommes, c'est du monde, à conduire une petite enquête auprès de 125 patients et dans certains centres appuyés par l'institution. Et on voit qu'au moins il y a 42% des femmes qui viennent avec qui viennent fréquenter le centre, c'est pour des demandes de besoins post-avortement.
Oui, donc c'est un chiffre vraiment effectivement très très important. Olga Benoît, pour terminer, on voit bien à quel point il y a une hypocrisie de la société, donc c'est interdit, mais en même temps l'État sait que ça se pratique beaucoup, et votre combat donc aujourd'hui, vous combattez pour la légalisation de l'avortement, Olga Benoît.
Oui, justement, parce que tant que l'avortement soit pénalisé, il n'y aurait pas une politique de santé qui adresse cette problématique, parce que là, l'État ne va pas prendre ses responsabilités face à ses engagements, tant au niveau national qu'international, de garantir la santé des femmes. Il n'y aura pas de service. Et en même temps, tant que c'est pénalisé, on n'aura pas la possibilité de faire la prévention qui passe nécessairement par l'information, l'éducation sexuelle et aussi l'accès aux méthodes contraceptives.
Et oui, c'est donc une prise en charge globale. Olga Benoît, merci beaucoup d'avoir pris la parole sur avec Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes chargée de programme à SOFA, c'est Solidarité Femmes Haïtiennes, sur la lutte contre les violences faites aux femmes.
Priorité Santé sur RFI.
L'avortement dans le monde aujourd'hui, dans Priorité Santé, donc c'est 44 millions d'IVG, on les compte dans des conditions souvent déplorables, puisque un avortement sur deux est toujours illégal. Et on va partir tout de suite au Tchad, où c'est Noël qui nous appelle du Tchad. Bonjour Noël.
Bonjour Sandrine.
On écoute votre question, merci de témoigner.
Ok, au Tchad, l'avortement est considéré comme un crime. Et la plupart des femmes qui font l'avortement, elles qui font l'avortement, c'est des jeunes femmes et moins de 20 ans. Et on ne cesse de trouver des fœtus déposés dans la rue à chaque moment. Et je voudrais savoir, est-ce que la communauté internationale ne peut pas faire vraiment la pression sur tous les États afin que l'avortement soit légalisé et pratiqué sur demande de la femme à tous les niveaux?
Merci beaucoup Noël pour votre témoignage. Donc il y a pas les hommes, il y avait une remarque sur Facebook en disant mais pourquoi les hommes sont souvent contre, d'ailleurs majoritairement plus contre que les femmes. Voilà Noël qui a un autre avis. Est-ce qu'au niveau international les choses bougent, Christine Mauget? Est-ce qu'on peut, oui,
ça bouge effectivement un petit peu mais ça bouge aux marges, avec des pays où il y a quand même toujours de fortes crispations. Mais justement, pour aller dans ce sens, il y a eu un rapport, le rapporteur spécial sur le droit qu'a toute personne à jouir d'une meilleure état de santé physique et mentale possible, et c'était monsieur Grover pour l'OMS qui avait fait ce rapport, et il soulignait l'importance de créer un cadre de dépénalisation de l'avortement pour que tous les autres droits aussi puissent s'exprimer. C'était aussi, et derrière aussi, d'aller aussi vers la question, ce qu'on appelle nous les droits sexuels et reproductifs, pour permettre l'information, permettre l'accès à la contraception aux jeunes, construire un terreau favorable qui va effectivement permettre in fine de réduire entre autres l'avortement, puisque aujourd'hui les chiffres sont têtus. Aujourd'hui, vous avez à peu près 222 millions de femmes qui voudraient avoir une contraception et qui ne l'ont pas. Donc déjà, effectivement, alors c'est pas le cas de nos pays du Nord, on n'est nous pas dans ces problématiques, mais on voit que tous les pays, et particulièrement en Afrique, c'est un vrai souci. Donc développer ces droits sexuels et reproductifs pour permettre d'aller de aux femmes de trouver des solutions et créer un cadre favorable de dépénalisation qui va les légaliser et construire derrière la possibilité des services de santé de pouvoir répondre à la demande et de le faire dans les meilleures conditions de santé santé.
Voilà. Alors beaucoup d'appels, Christine. On va maintenant prendre Décor qui nous appelle, Décor de Brazzaville en RDC. Bonjour Décor.
Oh, je suis au Congo Brazzaville, là, malheureusement.
Oui, alors on vous écoute.
Oui, au fait, j'avais fait un constat. qui montre que en fait, les femmes ou les filles qui avaient fait l'avortement dans le passé, maintenant, ils ont vraiment une grande difficulté pour donner naissance. Alors, j'ai en fait trois questions pour ça. La première est de savoir qu'est-ce qui fait que cela puisse se produire. Et en fait, la seconde, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe réellement lors de l'avortement. Alors, la dernière question, j'aimerais savoir s'il y a une différence entre l'avortement en Afrique et en Europe.
Merci beaucoup, Décor, pour votre témoignage. Alors là, il nous reste 30 secondes, c'est juste pour voir. Et beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que quand on a subi des IVG, après, ça peut influencer la fertilité? Beaucoup de femmes s'inquiètent.
Non, si ces IVG sont pratiqués dans un cadre sécurisé, avec et d'hygiène et tout ça, et justement, c'est pour ça qu'il faut dépénaliser et construire aussi un accueil qui permette aux femmes d'avoir des avortements sécurisés, avec des médecins ou des personnes compétentes. Et à ce moment-là, il n'y a pas de conséquences.
C'est dit. Merci beaucoup Christine Mauger d'avoir levé le voile sur ce dossier de l'avortement dans le monde. Depuis 20 ans, vous êtes au planning familial, responsable des questions internationales au planning familial. Donc, et comme tous les jeudis, maintenant, on termine avec Catherine Solano, notre sexologue préférée. Quelle contraception pour une meilleure sexualité? C'est votre chronique aujourd'hui, Catherine Solano. Alors avant l'IVG, bien sûr, il y a la contraception qui se doit quand même d'être le plus efficace possible pour éviter les grossesses non désirées. Mais le rôle de la contraception, c'est aussi de permettre d'avoir une sexualité fonctionnelle, épanouie. Or, les contraceptions entraînent plus ou moins de satisfaction sexuelle. Alors Catherine, quelles sont les contraceptions les plus satisfaisantes sur le plan de la sexualité?
Alors je vais vous donner des chiffres précis concernant cette satisfaction sexuelle des femmes. Alors pourquoi les femmes? C'est parce que c'est elles qui sont concernées le plus souvent par la contraception. Je vois votre mou et j'ajoute malheureusement, les hommes participent moins. Alors la contraception de la plus satisfaisante à la plus satisfaisante, ça va être en premier la ligature des trompes. 57% des femmes qui ont cette contraception permanente, comme on dit maintenant, une ligature des trompes, ouais, radicales, sont satisfaites sexuellement. Seulement 44% des utilisatrices de pilules sont satisfaites sexuellement, 30% des utilisatrices de stérilets et 11% des utilisatrices de préservatifs. Alors, ces chiffres sont intéressants parce qu'ils sont assez peu connus et on voit bien que chez la moitié des femmes, plus de la moitié des femmes, les femmes sont pas très satisfaites de leur contraception, sauf pour la contraception définitive, donc la ligature des trompes, où il y a 57%, donc plus de la moitié des femmes satisfaites.
Mais alors ça voudrait dire que après 40 ans, par exemple, quand on veut plus d'enfants, hein, c'est souvent le cas, eh bien alors la ligature des trompes serait vraiment la contraception idéale pour avoir une super vie sexuelle.
Exactement. D'ailleurs, c'est ce qui est conseillé aux alentours de 40 ans. On conseille aux femmes, surtout que si elles prennent une contraception hormonale ou elles ont un stérilet, de dire est-ce que la contraception permanente serait pas la meilleure solution? Alors bien sûr c'est définitif, mais il n'y a pas de contre-indication médicale ou quasiment pas. Et je veux quand même noter que c'est pas forcément le rôle des femmes, c'est-à-dire qu'on peut très bien demander à son partenaire, à son mari, de faire une ligature des déférents, qui est une option encore bien plus simple, puisqu'elle permet de conserver du sperme dans une banque spécialisée, donc d'avoir des enfants par la suite si jamais il se passait quelque chose dans la vie. Et en plus, chez l'homme, ça permet d'avoir une sexualité exactement pareille parce que tout fonctionne pareil, y compris l'éjaculation. On voit pas la différence quand on a une ligature des déférents.
C'est peut-être dans la tête que ça se passe.
Même s'il n'y a plus de spermatozoïdes au microscope, à l'œil nu, ça se voit pas.
Mais alors, pourquoi les autres contraceptions ne sont pas satisfaisantes?
Alors, l'utilisation du préservatif, qui est indispensable, évidemment, c'est pas tellement satisfaisant pour les femmes. Bizarrement, seulement 11% disent « je suis satisfaite ». Et 72% des hommes disent « j'ai déjà eu une panne d'érection » ou une diminution d'érection avec un préservatif. Alors les soucis avec le préservatif, c'est d'abord l'interruption de la trajectoire érotique, comme on dit nous les sexologues, c'est-à-dire faut faire une pause pour mettre le préservatif, et ça peut faire baisser l'excitation, du coup les femmes quand ça repart elles peuvent être moins excitées. Et puis il y a le problème du frottement. Avec un préservatif, pour la femme le frottement est énormément augmenté, il y a 2 ou 3 fois plus de frottement parce que la peau du pénis ne coulisse plus, c'est le préservatif qui coulisse. Donc il y a des risques de brûlure, de douleur ou d'irritation. lubrification. Et c'est pour ça qu'on conseille fortement d'ajouter du gel lubrifiant, ce qui pourrait sans doute augmenter pas mal la satisfaction.
Et avec la pilule, parce qu'elle est tout de même très répandue, hein, mais pourtant, moins de la moitié des femmes sont satisfaites seulement de leur vie sexuelle.
Oui, sous pilule, 44% seulement. Et on sait que les difficultés sexuelles sont la cause numéro un de l'arrêt de pilule. Donc, les femmes prenant la pilule ont des scores de dysfonction sexuelle plus élevés que les femmes qui la prennent pas. Et ça se note surtout au niveau du désir sexuel et de l'excitation sexuelle qui sont diminuées avec la pilule. Et une autre étude montre que les femmes sous contraception hormonale ont moins de relations sexuelles, moins d'excitation, de plaisir et d'orgasme. Alors, il faut pas non plus dire que ça, c'est un problème pour toutes les femmes, parce qu'il y a quand même des femmes qui sont très contentes de la pilule, mais en particulier pour la sécurité qu'elle apporte. Et du coup, ça les rassure de savoir qu'elles sont sous contraception de pilule.
Et le stérilet, Catherine Solano, vous en pensez quoi?
Alors, le stérilet, ça dépend des stérilets. C'est ça le problème. Alors maintenant, on parle plus tellement de stérilet, j'en profite pour le dire, mais de dispositif intra-utérin, DIU. Nous, on dit tout le temps ça. Parce que, en fait, stérilet, ça donne l'idée qu'on pourrait être stérile. Pas du tout. On n'est pas stérile avec un stérilet. On est infertile pendant le temps qu'il est posé. Après, on retrouve la fertilité. Alors, le meilleur des stérilets, le meilleur des stérilets pour la satisfaction sexuelle, c'est le stérilet au cuivre. Parce que, comme c'est pas un stérilet hormonal, il n'y a pas de baisse de désir sexuel comme on a sous pilule, sous patch, sous anneau, sous toutes les contraceptions hormonales. Donc, les femmes qui arrêtent la pilule à cause de ces difficultés de désir disent « Ah, ça y est, je retrouve mon désir avec mon stérilet ». Bon, le problème du stérilet, c'est quand même au cuivre, c'est qui fait saigner davantage. Donc il y a des femmes qui disent bah oui, mais j'ai 8 jours de règles au lieu de 4. Ça m'aide pas pour la sexualité, pour la vie de tous les jours. En revanche, le stérilet hormonal qui s'appelle Mirena ou Jaides, il est connu pour pouvoir entraîner des troubles de la libido, donc une baisse de désir sexuel. C'est même un effet indésirable qui est noté comme fréquent avec ce type de stérilet. Donc c'est plutôt moins bon pour la sexualité, je dirais.
Alors au final, pour préserver sa sexualité, vous conseillez quoi? Plutôt le stérilet au cuivre ou la ligature des trompes?
Voilà, alors ça dépend de l'âge de la personne, mais c'est vrai que c'est les deux contraceptions qui ont le moins d'action négative sur la sexualité, dans le sens où elles n'agissent pas sur les hormones sexuelles. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut éviter forcément les contraceptions hormonales, mais on peut les tester comme la pilule, le stérilet hormonal, l'anneau, le patch ou l'implant, mais toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière. Donc, une contraception peut convenir à une femme et pas à une autre. Et donc, la pilule ou les autres contraceptions hormonales, quand elles conviennent, elles vont aussi libérer de la peur de la grossesse. Et la peur, ça peut bloquer aussi la sexualité. Donc, il faut faire la part des choses. Donc, il faut pas vous dire, que j'évite à tout prix la contraception hormonale, mais c'est bon de savoir qu'elle peut avoir des effets indésirables sur la sexualité. Parce que le problème, c'est que si vous avez un souci et que votre médecin vous dit « mais non, c'est pas votre pilule », vous allez la continuer et ça peut aggraver des problèmes de couple. Alors que si vous savez que ça existe des problèmes, vous pouvez vous dire « moi, ça me convient pas, je vais changer ». Donc, c'est pas gênant d'avoir des problèmes si on sait d'où ils viennent, en fait.
Merci beaucoup, Catherine. Ça permet de se reposer effectivement la question de sa contraception. On enchaîne tout de suite avec la question d'un auditeur. Chaque jeudi, vous êtes là pour répondre à une question. Et là, c'est Mohamed Soubré qui nous appelle de Côte d'Ivoire. Bonjour, Mohamed.
Oui, bonjour.
Alors, on écoute votre question.
Et ma question est relative à l'éjaculation féminine et au point G de la femme. Comment est-ce qu'on peut trouver le point G de sa partenaire afin de stimuler encore plus son désir sexuel?
Alors déjà, je vais vous dire que le point G n'a pas du tout d'action sur le désir sexuel féminin. Si vous voulez trouver le point G de votre partenaire ou de votre ami pour ça, ça changera rien du tout à son désir. Le point G, c'est une zone qui est à l'intérieur du vagin et quand elle est stimulée, elle peut déclencher un orgasme. Et chez certaines femmes, ça peut être un orgasme qui est associé à une éjaculation féminine, c'est-à-dire à une expulsion de liquide. Mais cet orgasme par stimulation du point G ne survient que chez 10% des femmes à peu près. Donc ça fonctionne pas chez toutes les femmes et on ne sait pas trop si ça pourrait arriver chez toutes les femmes, c'est pas certain du tout. Donc pour connaître l'endroit où se trouve le point G, il suffit de savoir qu'il est à peu près à 3 ou 4 cm de l'entrée du vagin. Donc il est pas très profond, il est plutôt à l'entrée du vagin et il est situé du côté du ventre, ce qu'on appelle la face antérieure du vagin, donc le côté du vagin qui est au niveau du ventre, à la surface du ventre. Et en plus, cet endroit n'est pas sensible du tout au frottement, mais aux pressions appuyées. Donc, quand on veut trouver le point G et le stimuler, il faut pas que ça soit par une caresse qui fait un frottement, comme au moment de la pénétration, mais plutôt exercer une pression, donc soit avec le pénis au moment de la pénétration. Donc, il faut une position qui permette d'appuyer sur l'avant du vagin, tout près de l'entrée, où on peut faire des stimulations avec des caresses manuelles, donc avec un doigt appuyé sur cet endroit et demander à votre partenaire si elle ressent quelque chose. Et très souvent, cette stimulation provoque ce qu'on appelle un faux besoin d'uriner. C'est-à-dire que la femme a l'impression qu'elle a envie de faire pipi, tout simplement parce que c'est en arrière de l'urètre et donc ça donne un type de sensation comme ça, qui fait que beaucoup de femmes disent « stop, j'ai trop envie de faire pipi ». Mais en fait, c'est un faux besoin d'uriner. Si on continue, ça peut pour certaines femmes arriver jusqu'à l'orgasme.
Donc le point G, ça ne sert pas au désir, mais ça accélère le plaisir.
Voilà,
ça.
Exactement. Exactement.
Merci beaucoup à Mohamed Soubré pour votre appel depuis la Côte d'Ivoire. On attend vos questions pour Catherine Solano, pour d'autres émissions, au 33 1 84 22 75 75 et toujours sur Facebook pour dialoguer à l'antenne. Merci à toute l'équipe, à C'est Tous, à Maquet, Caroline Rousseau et Didier Bleu à la réalisation. Demain, dans Priorité Santé, docteur, ne me dites pas tout. On va parler des relations entre les médecins et les patients dans le cas de maladies graves. Jusqu'où faut-il tout dire? Comment se comportent les médecins au moment d'annoncer effectivement des maladies graves? Et quelles sont les réactions aussi des patients? Alors, on attend vos questions au 33 1 84 22 75 75 si vous avez dû faire face à, ou si vous êtes en train de faire face à une maladie grave. On se retrouve demain et on attend également vos témoignages sur Facebook. Demain donc, Priorité Santé revient. Portez-vous bien.